France Inter, il est 7h30. Le journal Sébastien Legenny, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, une prime de précarité pour les futurs fonctionnaires en CDD. C'est l'un des acquis du texte de loi qui sera donc présenté à l'Assemblée nationale. Insuffisant toutefois pour les syndicats. Début aujourd'hui de l'examen de la réforme de la fonction publique, on y revient dans un instant. Des lycéens à genoux, les mains sur la tête, en marge d'une manifestation. Il y a 5 mois, les images avaient soulevé une vague d'indignation. Les premières auditions des élèves commencent aujourd'hui devant l'IGPN. Dans l'actualité également, des villas au bout du monde et des liasses de billets dans les peignoirs. Le train de vie des époux Balkany devant le tribunal à partir d'aujourd'hui, notamment pour fraude fiscale. À l'étranger, le leader populiste Viktor Orban reçu à Washington par un de ses fervents soutiens Donald Trump. Et puis on parlera aussi d'un espoir pour les tétraplégiques grâce à la réalité virtuelle et de la tension qui monte sur la croisette. Le festival de Cannes, ça commence demain.
Au micro d'Alexandra Bensaïd, dans 20 minutes à 7h50, aujourd'hui la ministre des Armées, Florence Parly.
France Inter.
Attention Sébastien, débat électrique en perspective, la transformation de la fonction publique arrive devant les députés.
Les syndicats voient dans ce texte une lourde menace pour le statut des fonctionnaires. Le gouvernement, lui, plaide pour une fonction publique plus attractive, plus réactive. Après 18 mois de concertation, la réforme sera donc débattue à l'Assemblée nationale à partir de cet après-midi. Plus de fonctionnaires en CDD, une simplification des instances représentatives du personnel, un congé de transition professionnelle. Et puis cette nouveauté dans le texte, le secteur public devrait lui aussi donc se voir doté d'une prime de fin de contrat pour les contrats courts. Explication Delphine Simon.
Comme dans le privé, les CDD en fin de contrat toucheront cette prime de précarité dès lors que leur contrat ne dépasse pas un an. La mesure vaudra pour les trois versants de la fonction publique, État, collectivité territoriale ou hôpital. Pour la rapporteure du texte, la députée LREM Émilie Chalas, il s'agit de compenser la précarité des contractuels les plus fragiles.
La précarité, c'est quand on a un temps très partiel ou qu'on l'a quelques heures à gauche, quelques heures à droite. Évidemment, la surcharge financière que va représenter cette prime de précarité sur ces contrats va peut-être, je l'espère en tout cas, inciter les employeurs publics à réfléchir à leur mode de recrutement et à leur stratégie RH sur ces petits contrats et ces besoins de courte durée.
Le montant de cette prime serait d'environ 10% de la rémunération brute, comme dans le privé. Un effort financier de 5 à 600 millions d'euros pour l'État. Selon l'exposé des motifs, plus de 70% des contractuels seraient concernés. Insuffisant pour la CFDT, Mylène Jacquot, secrétaire générale de la Fédération des fonctionnaires.
Nous, ce qu'on souhaite, c'est que tous les agents qui sont en CDD puissent bénéficier de cette indemnité de fin de contrat. Et dans la fonction publique, les CDD, ça peut aller jusqu'à des durées de 6 ans. Donc on voit bien qu'on est loin du compte.
Si le texte est voté, cette prime de précarité serait versée pour les contrats courts à partir de 2021.
Delphine Simon, au total ce sont 1000 amendements qui ont été déposés, dont celui sur la prime de précarité. Le vote solennel est prévu le 28 mai prochain, après les élections européennes. Un débat sur lequel va planer pendant 2 semaines la question de la suppression des postes de fonctionnaires. Emmanuel Macron a semblé reculer sur le chiffre de 120 000 annoncé pendant sa campagne. Édouard Philippe, lui, dans Le Figaro ce matin, explique n'avoir pas de dogme, je cite, quant au nombre souhaitable de fonctionnaires.
7h33, le Rassemblement National, Sébastien, accusé de lien avec Steve Bannon, l'ex-conseiller de Donald Trump.
Oui, après la diffusion d'un documentaire sur France 2, plusieurs élus ont en effet demandé l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire pour intelligence avec une puissance étrangère. Marine Le Pen, elle, entend porter plainte pour diffamation. Il n'y a aucun financement américain de sa campagne, affirme-t-elle. Une campagne aux airs de tournée européenne pour la patronne du RN qui s'est déjà rendue à Prague, à Bruxelles ou à Sofia en Bulgarie. Ce sera Bratislava aujourd'hui en Slovaquie, puis demain Tallinn en Estonie. Marine Le Pen qui cherche à nouer des alliances avec d'autres partis eurosceptiques. Les explications de Maxence Lambrecq.
C'est une drôle de campagne qui ne lui rapportera aucune voix, mais potentiellement un peu de pouvoir. Marine Le Pen veut garder la main dans le camp eurosceptique, ne pas disparaître derrière Matteo Salvini, lui qui avec sa casquette de vice-premier ministre italien n'a aucun mal à dialoguer avec le Hongrois Orban ou le Polonais Kaczynski. Elle va donc elle-même tisser sa toile, nouer des alliances dans de petits pays. Ses nouveaux amis ne décrocheront en général qu'un ou deux sièges à Strasbourg, mais c'est une question de symbole. Demain, à Tallinn, elle sera par exemple sur scène aux côtés du tout nouveau ministre de l'Intérieur estonien, patron du Parti Populaire Conservateur, et à Bratislava tout à l'heure, elle s'associera avec un parti susceptible de bientôt rentrer au gouvernement. Tant pis si l'un est bien plus libéral que le RN et l'autre très critique à l'égard de Moscou. Marine Le Pen s'en moque, persuadée que la dynamique anti-migrant, anti-Bruxelles l'emporte et permet au soir du 26 mai de constituer le plus grand groupe possible avec 90, peut-être 100 députés nationalistes parmi les 751 sièges. Ils sont aujourd'hui 36, le plus petit groupe du Parlement européen.
Marine Le Pen sera elle le week-end prochain en Italie aux côtés de Matteo Salvini. Dossier complet à retrouver sur franceinter.fr. Et puis en politique, toujours un ancien sarkozyste à l'Élysée, Jérôme Peyra, ancien conseiller de Jacques Chirac puis de Nicolas Sarkozy, a été nommé conseiller politique d'Emmanuel Macron. C'était le 6 décembre dernier, des dizaines de lycéens les mains sur la nuque, arrêtés en marge d'une manifestation à Mantes-la-Jolie. Les images avaient fait le tour des réseaux sociaux et soulevé une vague d'indignation. L'IGPN avait été saisi d'une enquête. Les auditions des lycéens devant la police des polices commencent aujourd'hui, plus de 5 mois après les faits. Adrien Bossard.
En revoyant la vidéo prise par un policier...
Voilà une classe qui se tient sage.
Sofiane est catégorique ce 6 décembre.
La police a fait une bavure.
Le jeune homme de 16 ans fait partie des 152 interpellés ce jour-là. Des lycéens forcés à s'agenouiller, mains sur la nuque avant d'être emmenés au commissariat. Depuis, Sofiane fait tout pour éviter les forces de l'ordre.
Bah, quand je les revois, j'ai comme une appréhension. Ouais, j'ai peur. On a pu en parler avec différents profs qui nous ont soutenus, qui nous ont aidés à faire la démarche de porter plainte contre cette bavure.
Il y a au total dans ce dossier une quarantaine de plaintes. Le fils d'Anan, lui, va faire partie des premiers auditionnés par l'IGPN. Enfin, dit-elle.
Ce que j'attends, c'est juste que les gens, que les politiciens reconnaissent que nos enfants ne sont pas des voyous. La vidéo reste marquée à jamais. Humiliant même pour nous en tant que parents, parce que on a pu lire dans certains commentaires qu'on était des parents défaillants. C'est très dur.
Maître Arié Halimi, l'avocat d'une vingtaine de plaignants vient de saisir un juge d'instruction. Il espère que l'enquête ira au bout.
Lorsque l'État est représenté par des personnes qui les humilient, il y a un moment où il faut reconstruire le rapport de ces lycéens avec l'État. C'est ce que nous allons essayer de faire en saisissant la justice pour leur montrer que la justice peut les entendre, que même si ce sont des policiers qui ont commis ces infractions, ils peuvent être poursuivis et jugés et eux reconnus dans leur qualité de victime.
Au total, une quinzaine de jeunes vont être auditionnés par l'IGPN.
152 jeunes exactement au total ont été interpellés à l'époque. Les auditions vont durer une quinzaine de jours.
Il est 7h37 quand la réalité virtuelle, Sébastien, vient en aide aux tétraplégiques.
Ouais, jusqu'ici, c'était surtout la robotique avec les exosquelettes qui avait permis d'améliorer le quotidien des personnes paralysées. Mais la réalité virtuelle est aussi une piste de plus en plus explorée. Il y a toutefois très peu de projets qui visent à la récupération des membres supérieurs du corps. C'est justement le combat et l'histoire de Paul Monnier, tétraplégique en fauteuil depuis 12 ans, qui a convaincu un de ses amis de l'aider à retrouver l'usage de ses mains. Sophie Bécherel.
Suite à un accident en mer, Paul Monnier n'a plus l'usage de ses jambes et de ses bras.
Actuellement, pour beaucoup de chercheurs, le Graal, c'est de refaire marcher l'homme. Et dans ma situation de tétraplégie, je trouve que accentuer sur les membres supérieurs me permettrait à moi et à de nombreux tétraplégiques de pouvoir gagner énormément d'autonomie, en fait, plus que la marche en elle-même.
C'est en découvrant les travaux en réalité virtuelle menés à la Duke University aux États-Unis qu'il a convaincu un ami de les adapter dans un système simple et peu coûteux. L'avant-bras est équipé de deux électrodes reliées à un casque de réalité virtuelle. Vincent Rieuf, concepteur dans le laboratoire Iceberg.
Quand on souhaite fermer sa main, il y a un signal électrique qui part du cerveau jusqu'aux muscles. Et sur une personne tétraplégique, on intercepte ce signal et on lui montre une main virtuelle. Elle voit via son casque, à travers son casque, à l'endroit où se trouve son bras réel, un bras virtuel qui s'ouvre et se ferme au bon vouloir de son intention.
Par la stimulation cérébrale, il s'agit d'aider au rétablissement des voies nerveuses entre le cerveau et les membres. Et cela sans implanter de puce dans le cerveau. Paul Monnier.
Ce serait vraiment très optimiste de dire que ça m'a fait vraiment récupérer. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des retours agréables avec des muscles plus souples dans le bras gauche, parce que je serai uniquement le bras gauche pour l'instant. Une meilleure gestuelle et plus précise que la main droite. Et également une plénitude qui est aussi très agréable.
Pour lui, le cerveau est encouragé par ce qu'il voit dans le casque, d'autant que la main s'ouvre et se ferme plus que dans la réalité.
Sophie Bécherel, le plan de bataille de la mairie de Paris pour lutter contre l'invasion des trottinettes électriques, emplacements spécifiques, amendes et même fourrières en cas de véhicules gênants. Les opérateurs ont rendez-vous aujourd'hui dans le bureau d'Anne Hidalgo.
Et pour terminer ce journal, Sébastien, direction la Croisette.
La ville de Cannes qui frétille à la veille demain de l'ouverture du festival de Cannes 72e édition. Le tapis rouge sera déroulé ce matin. Reportage Delphine Evenoux.
Sur la croisette, Agnès Varda, du haut de l'affiche officielle, veille sur les préparatifs. Les canoës profitent des derniers instants de calme.
Il va affluer un monde.
Viviane, sosie d'Anouk Aimée.
La fête est saturée de belles gosses, beaux mecs, beaux trucs. Et nous avons interdiction d'aller sur la plage parce qu'il y a les acteurs. Ah,
ce sont des grincheux.
Suzanne et son mari, amateurs de signes extérieurs de richesse, en plein travail sur un banc.
Il y a des belles voitures, il y a de la belle jeunesse. Moi, je trouve que c'est un plaisir des yeux.
Le plaisir des yeux, c'est le métier de Michel, décorateur d'événements.
On est prêt.
Il aménage une immense tente sur la plage pour des rencontres presse-réalisateurs.
C'est là que tout se passe, quoi. Il se joue des enjeux colossaux aussi derrière tout ça. Concernant des grosses prods comme des plus petites prods, c'est là aussi où on vient pour se faire connaître.
Pendant 12 jours, la population double, voire triple, la mairie de Cannes à l'habitude. Sophie Moisset, directrice de l'événementiel.
On anticipe énormément, on met en place toute une logistique, que ce soit au niveau de la sécurité. Il faut prévoir un plan de circulation particulier et également tout ce qui est gestion des déchets, là aussi, il faut réorganiser la ville avec cet afflux de population.
Pour l'hôtellerie-restauration, c'est une aubaine. Des cartes majorées de 20% parfois. David, patron d'un petit bar à vin.
C'est vraiment minoritaire, mais certains le font. Ils se calent un peu sur les hôteliers qui ne gênent pas pour le faire. Les hôteliers, c'est x2, x3.
L'année dernière, le Festival de Cannes a rapporté près de 200 millions d'euros de retombées économiques.
Delphine Evenot, puis pour terminer, comme je sais que vous suivez avec délice l'actualité de la royauté britannique, Nicolas, sachez que vous auriez pu gagner gros si vous aviez parié sur le prénom du Royal Baby de Meghan et Harry. Une grand-mère a touché 21 000 euros pour avoir trouvé le prénom d'Archie.
Merci Sébastien Legénie.